www.fnac.com.
Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 17h, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Sommaire de cette édition, la réouverture ce lundi du point de passage de Rafah sous contrôle drastique, une fenêtre d'espoir selon le chef du comité palestinien chargé de l'administration provisoire de Gaza. Le Royaume-Uni annonce des sanctions contre 10 responsables iraniens, parmi eux le ministre de l'Intérieur, Eskandar Momeni. Dans le dossier du jour, il sera question de l'ouverture sous condition du point de passage de Rafah alors qu'Israël resserre l'étau sur les ONG. MSF est menacé d'interdiction dans la bande de Gaza dès la fin du mois. Et puis en Irak, l'annonce de l'ouverture d'enquête à propos de plusieurs centaines de détenus de Daesh. Bonjour à tous. Au Liban, de nouvelles frappes israéliennes dans le sud ont fait un mort et 8 blessés selon le ministère libanais de la Santé, notamment à Ansariyeh Khleileh. L'armée israélienne dit avoir visé des installations d'armes du Hezbollah chiite et un agent à Ansariyeh malgré la trêve de novembre 2024. Le chef du comité palestinien chargé de l'administration provisoire de Gaza qualifie la réouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte de fenêtre d'espoir pour les habitants. Ali Chat affirme que cette mesure dépasse le cadre administratif et doit marquer le début d'un processus pour renouer et rouvrir des perspectives dans le cadre du plan attribué à Donald Trump. Le passage de Rafah a rouvert ce lundi pour la première fois depuis mai 2024, mais de façon très limitée. 150 personnes sont autorisées à sortir et 50 à entrer sous strictes restrictions. Les forces gouvernementales syriennes sont entrées à Asaké dans la zone kurde en application d'un accord entre Damas et les Kurdes prévoyant le déploiement de l'État et l'intégration des forces démocratiques syriennes aux structures syriennes. Les autorités kurdes ont décrété un couvre-feu dans le centre-ville pour assurer la sécurité. Le président iranien Massoud Pezeshkian aurait ordonné l'ouverture de pourparlers nucléaires avec les États-Unis. Aucune date ni lieu n'ont été précisés. Cela alors que Donald Trump dit croire à un accord incluant une levée des sanctions. Téhéran évoque des médiations régionales et affirme ne pas accepter d'ultimatum sur fond de tensions accrues et d'avertissement du guide Ali Khamenei contre une guerre régionale. Le Kremlin confirme des négociations Ukraine-Russie-États-Unis mercredi et jeudi à Abu Dhabi après un report. Les discussions butent toujours sur les territoires. Moscou exigeant un retrait ukrainien de zone de Donetsk. En parallèle, un échange Russie-États-Unis a eu lieu à Miami, qualifié de constructif sans autres détails. Le Royaume-Uni annonce des sanctions contre 10 responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur Eskandar Momeni, pour leur rôle présumé dans la répression des manifestations. Sont aussi visés des responsables policiers et des membres de gardiens de la révolution islamique, dont Mohamed Reza Hashemi Far et le juge Mehdi Rasaki. L'actualité en France, deux militantes franco-israéliennes visées par un mandat d'amené de la justice française, l'avocate Nili Kufer Naouri de l'association Israelis Forever et Rachel Twitou de l'organisation Tzav 9 sont soupçonnées d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza. Elles font l'objet d'une enquête pour complicité de génocide selon une source judiciaire. Ségolène Royal appelle Laurent Nunez à se rendre en Algérie, affirmant qu'il y est attendu sur fond de tensions bilatérales et de coopération migratoire et sécuritaire au plus bas. Elle dit avoir évoqué avec le président algérien les OQTF et le cas du journaliste Christophe Glaise, qu'elle affirme avoir pu visiter en détention après un déplacement à Alger. Enfin, procès en appel du Rassemblement national. Les débats sur le fond se sont achevés. Réquisition attendue mardi après-midi, puis plaidoirie de la partie civile, Parlement européen mardi matin et de la défense à partir de mercredi. C'est la fin de ce point de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient Place. À présent, au dossier du jour, on commence par le passage de Rafah à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza qui a réouvert ce lundi. Une réouverture très encadrée. Seules quelques dizaines de Palestiniens sont autorisés à franchir la frontière chaque jour. Dans le même temps, Médecins sans frontières dénonce la décision israélienne de lui interdire d'opérer dans l'enclave, y voyant un prétexte pour entraver l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors, que va changer cette réouverture de Rafah dans un territoire toujours au bord de la rupture? Pour Rami Abou Jamous, grand reporter à Gaza, c'est un peu d'espoir, même si la situation n'est pas bien claire.
On peut dire que c'est une petite fenêtre d'espoir, mais c'est pas du tout à l'attente de la population palestinienne, parce que pour le moment, déjà, rien n'est clair au niveau de l'ouverture. On a entendu parler juste du côté israélien et des médias israéliens. Il n'y a pas de truc officiel ou quelque chose d'officiel de la part d'Égyptiens, ni de EBAM, la Commission européenne, ni des Palestiniens, l'autorité palestinienne. Donc, tout ce qu'on a entendu, c'est par les médias, c'est qu'il y aura juste 50 patients ou blessés qui vont être évacués par jour, avec juste deux accompagnants. Et pour l'entrée, il va y avoir juste 50 personnes qui peuvent rentrer de l'Égypte vers Gaza, avec une liste qui doit être envoyée au service de renseignement israélien pour justifier ou bien pour donner l'accord sur les personnes qui vont entrer, avec des points de fouille, un point de checkpoint qui s'appelle un nouveau checkpoint qu'ils ont fait à côté de Rafah. Et donc, malheureusement, c'est pas du tout à l'attente des Palestiniens, surtout si on veut parler juste des personnes entre patients et blessés qui doivent être évacués pour se faire opérer ou bien soigner à l'étranger. On parle plus de 20 000 personnes avec ce rythme-là de 50 personnes par jour. Donc, il faut des années pour que ces blessés, ces patients puissent partir pour se faire soigner à l'étranger. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui veulent partir. Il y a des étudiants qui veulent leurs études à l'étranger, il y a des gens qui veulent voir leur famille à l'étranger, il y a des gens qui veulent quitter Gaza parce que pour eux, Gaza, ça devient un enfer et qu'ils ne peuvent plus vivre à Gaza. Donc malheureusement, avec cette ouverture-là, avec ces critères et ces conditions, ça va être vraiment impossible pour que la vie s'améliore pour les Palestiniens ou bien surtout pour les blessés et les patients.
L'état des infrastructures médicales, qu'en est-il aujourd'hui justement dans la bande de Gaza?
Oui, malheureusement, on est toujours dans la pénurie. Il y a un manque, le système de santé est anéanti. Tout ce qui est système de santé, malheureusement, public est anéanti. Il n'y a que deux hôpitaux publics qui fonctionnent d'une façon partielle sur toute la bande de Gaza. Et quand je dis toute la bande de Gaza, je parle juste de 40% de la surface de Gaza, parce que les 60% c'est occupé par l'armée d'occupation israélienne. Et donc, il y a juste deux hôpitaux d'une façon partielle. Il n'y a pas de matériel médical suffisant. Il n'y a pas de médicaments aussi. Chaque jour, il y a des gens qui perdent leur vie à cause du manque de médicaments et à cause du manque de matériel médical. Et surtout que là, le service public est anéanti. Il y a une alternative avec les ONG internationales. Et même maintenant, avec les ONG internationales, ils sont en train d'être menacés d'arrêter de travailler et d'arrêter leur travail à Gaza et même en Cisjordanie.
Rami Abou Jamous, grand reporter à Gaza, auteur de Gaza Vie, l'histoire d'un père et son fils aux éditions Stock. Il est l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Je vous le disais en titre, l'Irak annonce l'ouverture d'enquête à propos de plus de 1300 détenus de l'organisation Daesh, des personnes récemment transférées depuis la Syrie dans une opération américaine. Les procédures sont menées par plusieurs juges spécialisés sous la supervision du Conseil supérieur de la magistrature. François-Xavier de Calonne.
Oui, les procédures d'enquête ont commencé concernant 1387 membres de l'organisation terroriste Daesh récemment transférés du territoire syrien. Voilà les mots dans un communiqué du bureau en charge des médias du pouvoir judiciaire irakien. Ces détenus font partie des 7000 membres de l'organisation auparavant détenus par des combattants kurdes syriens, des détenus que l'armée américaine a déclaré vouloir transférer en Irak, et cela après la reprise par les forces gouvernementales syriennes de territoires détenus par les Kurdes. Or, parmi eux figurent des Syriens, des Irakiens, mais aussi des Européens et des personnes d'autres nationalités. Alors, petit rappel historique, Nadia, en 2014, Daesh s'est emparé de vastes territoires en Syrie et en Irak. Ses membres avaient commis des massacres et réduit des femmes et des filles en esclavage sexuel. Appuyé par une coalition menée par les États-Unis, l'Irak a proclamé la défaite du groupe en 2017. En Syrie, les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, ont défait Daesh 2 ans plus tard. Les FDS ont ensuite incarcéré des milliers de djihadistes présumés et placé des dizaines de milliers de leurs proches dans des camps. Un tournant, le mois dernier, les États-Unis ont déclaré que la mission initiale des forces démocratiques syriennes de lutte contre les djihadistes n'avait plus de raison d'être. Pourquoi ? Eh bien, en raison de l'émergence d'un État central soutenu par les États-Unis à Damas.
C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Anis Gemri à la réalisation. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.